populaire. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, nous allons nous pencher sur les GAFAM, sujet de toutes les attentions en ce début de deuxième millénaire. Pour les moins connectés d'entre vous, l'acronyme GAFAM renvoie bien sûr aux grands géants du web américain, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ces cinq entreprises, dont l'hégémonie ne cesse de grandir, posent aux juristes et aux législateurs des questions nouvelles, organisant nos sociétés, redessinant les cartes de la vie publique et de la vie privée de ses utilisateurs, jusqu'à concurrencer sur l'échiquier du pouvoir la puissance déclinante des États. Ils sont vus par certains comme des modèles d'utopie libérale, emblèmes de la réussite et de la modernité occidentale, ou au contraire comme une dystopie terrifiant monde capitaliste tout-puissant, réactualisant la figure de Big Brother, s'infiltrant dans les sphères les plus intimes des citoyens du monde.
Alors, quelques chiffres s'imposent pour se rendre compte de l'étendue de ces empires. Google est tout d'abord le moteur de recherche dominant avec 93% de parts de marché au niveau mondial. Microsoft et Apple détiennent, eux, 95% du marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau, Amazon réalisant quant à lui les trois quarts des ventes de livres électroniques, même si les activités de l'entreprise ont depuis longtemps débordé le domaine de la vente de livres en ligne. Sur Amazon aujourd'hui, on trouve tout, faisant craindre à certains l'émergence d'un monde où le commerce planétaire passerait de manière systématique par ce site et les entrepôts de la marque au sourire. Quant à Facebook, il détient 4 des 10 applications les plus téléchargées durant les 10 dernières années. Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, où se déploient nos vies culturelles, amicales et familiales.
Bien sûr, il existe d'autres géants, russes et chinois, mais pour les Américains et les Européens, ce sont les GAFAM qui fascinent et inquiètent. Nous allons donc tenter, avec nos invités et chroniqueurs, de cartographier les valeurs affichées par ces entreprises. Quel est leur projet, comme dirait notre président ? Sans les juger, bien sûr, car les médias généralistes, les politiques et les tribunaux s'y attellent déjà activement. Comprendre les limites de leur discours, de leur pouvoir, car vous aider à comprendre, c'est la seule ambition du Labo des Savoirs. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivier Hersheide. Olivier Hersheide, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes. Vous êtes notamment l'auteur de « L'appétit des géants, pouvoir des algorithmes, ambition des plateformes » paru en 2016 chez C&F Éditions. Et plus récemment, « Du monde, selon Zuckerberg, portraits et préjudices » toujours chez C&F Éditions. Autour de la table, on retrouve aussi Marie Hilary. Bonjour Marie. À la réalisation, Dounia Sez, et à l'animation, Maxime Labat et Jérémy Frexas.
Bonjour.
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
Dans un discours donné à l'adresse de la promotion diplômée de Princeton en 2010, Jeff Bezos nous raconte les débuts d'Amazon. Lorsqu'il dit à son manager qu'il compte démissionner pour ouvrir une librairie en ligne, celui-ci aurait répondu: cela semble être une bonne idée, mais elle serait encore meilleure dans la tête de quelqu'un qui n'a pas déjà un chouette job. Au début des années 2000, le web est un objet de grande curiosité. On y trouve déjà pas mal de contenu. Des scientifiques cherchent alors à comprendre comment ces pages sont reliées les unes aux autres. Deux d'entre eux, Larry Page et Sergey Brin, vont cofonder ensuite Google. Des histoires analogues existent sur l'engouement pour l'application développée par Facebook, cofondée par Mark Zuckerberg, alors étudiant à Harvard. Les GAFAM ont pris aujourd'hui une ampleur incroyable. Autour de leurs services de base ou historiques, ces entreprises ont de façon quasi systématique développé toute une suite de services ou de produits. Prendre le temps d'analyser cela devient nécessaire pour comprendre réellement la nature de leur activité. Alors Olivier et Hershey, une question pour commencer. Est-ce que les GAFAM ont un cœur de métier ?
Oui, alors rebonjour d'abord tout le monde et merci pour l'invitation. C'est une bonne question parce qu'effectivement, alors ils ont bien sûr un cœur de métier, mais c'est peut-être pas celui auquel on pense spontanément, c'est-à-dire que cœur de métier de Google n'est pas d'être un moteur de recherche, mais depuis longtemps déjà, le cœur de métier de Google, c'est d'être une régie publicitaire qui met des annonceurs et des marques en relation et qui permet effectivement de gérer et d'afficher les fameux liens publicitaires que vous avez et qui émaillent vos recherches. Pour Facebook, c'est un petit peu la même chose, pourrait-on dire, même si c'est peut-être un petit peu moins net, mais la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire que 98% en gros des revenus de Google viennent de sa régie publicitaire et certainement pas de son moteur de recherche qui lui coûte beaucoup plus qu'il ne lui rapporte. Et de fait, pour l'ensemble de ces GAFAM, pendant très longtemps, on s'est trompé dans nos analyses, dans le regard qu'on portait sur eux. Et effectivement, en considérant que le métier de Facebook, c'était d'être un réseau social, ou que celui de Google, c'était simplement d'être un moteur de recherche, on a oublié que derrière, ce qui prévalait, c'était avant tout des enjeux économiques, et que ces enjeux économiques et ce modèle économique, il avait bien sûr un impact sur cette espèce de second métier, qui est celui de fournir de l'information ou de mettre les gens en relation.
Alors vous l'avez dit, en fait, quand on pense à ces entreprises, on pense pas forcément à leur cœur de métier, en tout cas à l'activité qui leur apporte le plus d'argent. On pense à d'autres types d'activités qui parfois sont un peu plus en lien avec notre quotidien ou en lien avec des communications qu'on peut voir dans la presse liées aux entreprises. Comment expliquer cette propension à développer des ramifications, à acquérir d'autres entreprises ou à former des structures sœurs dans des domaines qui peuvent parfois paraître très variés?
D'abord, ce sont des sociétés qui, sur leur projet initial de développement, c'est-à-dire le réseau social pour Facebook et le moteur de recherche pour Google, ont très vite atteint un seuil, une masse critique d'utilisateurs absolument considérable, qui les mettait en situation de verrouiller en quelque sorte le marché. Et dès lors, se met en place une espèce de deuxième temps de l'économie qui fait que il y a toujours cette crainte, effectivement, d'être détrôné par un possible challenger, et que donc la meilleure manière d'éviter d'être détrôné, c'est de racheter les jeunes pousses ou des startups quand elles sont en phase de croissance identifiée. Et ensuite, il y a là aussi une vraie stratégie de diversification. Je prends juste un exemple. Il y a en 2005, donc c'était la préhistoire carrément, mais en 2005, Google, qui à l'époque est déjà le moteur de recherche absolument indétrônable, décide de lancer un projet qui paraît un petit peu dingue, qui s'appelle Google Books, enfin Google Print au départ, et qui consiste à numériser des ouvrages du domaine public en partenariat avec les bibliothèques. Et tout le monde se demande qu'est-ce que Google va faire dans cette galère, qui ne va pas lui rapporter un centime, qui va lui coûter énormément d'argent, et qui a l'air d'être finalement très très loin, ou en tout cas assez éloigné de son cœur de métier. Et on s'aperçoit que derrière, si Google se lance là-dedans, c'est pour plusieurs raisons, notamment pour améliorer son algorithme linguistique, et pour 5 ans, 7 ans plus tard très exactement, être en situation de devenir également un libraire, c'est-à-dire de vendre des livres, mais aussi avec aujourd'hui Google Play, de distribuer sur le modèle des grands stores des films, etc., etc. Donc il y a tout ça, et puis après il y a des enjeux aussi stratégiques et politiques, c'est-à-dire que récemment Google s'est restructuré autour d'une société mère qui s'appelle la société Alphabet, et pour éviter, qui était un risque qui devenait de plus en plus présent, qui était un risque potentiel de démantèlement suite à des positions de monopole ou de quasi-monopole sur des secteurs comme la publicité. Donc ils sentaient un petit peu le vent du boulet arriver, et du coup, pour ne pas risquer un démantèlement, ils se sont restructurés autour de la société Alphabet en disant voilà, il y a une société mère Alphabet, puis derrière on a des filiales. Donc il y a la filiale Google, il y a la filiale moteur de recherche, il y a la filiale YouTube, il y a la filiale régie publicitaire. Et du coup, Google n'est plus une entité unique, mais une série de petites entités qui, prises isolément, sont plus compliquées à démanteler ou à attaquer au nom des lois antitrust. Donc ça participe un petit peu de tout ça, ces stratégies effectivement de racheter ou d'être présent sur plein de secteurs a priori assez différents au départ.
Ces stratégies, est-ce qu'elles sont propres aux GAFAM ?
Alors non, parce qu'il y a tout un tas d'entreprises dont on ne parle quasiment jamais qui utilisent les mêmes stratégies macroéconomiques, c'est-à-dire qui, pour conforter une place de marché ou un secteur, se mettent effectivement à racheter à tour de bras avec un ratio où elles savent que, en gros, pour 100 entreprises, pour 10 entreprises ou start-up rachetées, il y en a peut-être une qui leur permettra de ramener un petit peu d'argent à échéance de 5 ou 10 ans. Donc non, il n'y a pas que les GAFAM qui font ça. Le problème, c'est que quand ils déploient ensuite les services, ils amènent avec eux les audiences absolument colossales qui sont les leurs. Donc effectivement, quand Facebook rachète Instagram, quand Facebook rachète WhatsApp, quand Google rachète il y a très longtemps YouTube... du jour au lendemain, des sites relativement confidentiels, hein, parce que au moment où Instagram est racheté, on ne peut pas dire que c'était un site confidentiel, mais en tout cas, du jour au lendemain, l'effet de masse, il y a un effet de masse et un effet de bascule qui fait que les audiences de la société achetante, si j'ose dire, se répercutent sur la société achetée, en totalité ou en partie, et du coup, ça impacte considérablement un ensemble de services qui sont des services qu'on utilise au quotidien dans nos vies. Donc les problématiques que posent ces rachats massifs ou ces positionnements divers là, sur plein de secteurs de la part des GAFAM résonnent différemment que si c'était effectivement une société d'automobile qui rachetait une autre société qui fabrique des moteurs à hydrogène.
On a pas mal évoqué jusqu'à présent l'exemple de Google. Il y a une autre entreprise dans laquelle il y a une ramification incroyable des métiers, c'est Amazon. Et dans la tête d'une majorité d'entre nous, Amazon, c'est un gigantesque supermarché dématérialisé. Alors, c'est pas sans causer de nombreux débats à l'heure où les boutiques physiques sont contraintes de fermer leurs portes selon leur caractère supposé essentiel ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la force d'Amazon est ailleurs. Et Marie Hilary, vous êtes partie enquêter sur les activités de l'entreprise peu connue du grand public.
Oui, tout à fait, Jérémy. Alors, quel est le point commun entre Engie, Seloger.com, Netflix, Airbus, Veolia ou encore AXA? Eh bien, toutes ces entreprises et des dizaines de milliers d'autres dans le monde confient une partie, voire la totalité de leur informatique à un groupe bien connu du grand public. J'ai nommé Amazon. En effet, ce géant du web n'est pas qu'une plateforme d'achat en ligne. Sa filiale Amazon Web Services s'occupe du stockage et du traitement des données en ligne, le fameux cloud. En moins de 15 ans, Amazon a transformé la façon dont les professionnels utilisent les outils informatiques. En effet, stocker ses données et faire tourner ses logiciels sur ses propres serveurs, ça prend de la place, ça demande du personnel, des machines et donc de gros investissements initiaux. Au tournant des années 2000, Amazon a été l'un des premiers à comprendre que le web et l'internet haut débit allaient changer la donne en permettant d'accéder à distance aux machines. Le cloud était né et avec lui un nouveau modèle économique. Les infrastructures de stockage sont désormais partagées. Les origines de cette activité ne datent pas d'hier et remontent à 2003. L'entreprise de Jeff Bezos est passée du statut de librairie en ligne à celui de distributeur multiproduit. Le marché ne fournissant pas de logiciels suffisamment efficaces pour les besoins de l'entreprise, Amazon s'est mise à construire ses propres data centers et ses logiciels. Mais tout cela est très onéreux, alors pourquoi ne pas en faire un service ? C'est ce qu'Amazon Web Services a fait en proposant de facturer aux entreprises l'accès à leurs données et leur traitement, en fonction du nombre d'heures d'utilisation et du nombre de gigaoctets utilisés. Aujourd'hui, plusieurs entreprises sont capables d'accéder aux machines, on parle alors de cloud public. Celui-ci a vu le jour grâce à Andy Jassy, le bras droit de Jeff Bezos. Sa mise en place est un succès. Au départ, ce sont plutôt des startups et des développeurs qui utilisent les services d'Amazon Web Services. Mais rapidement, l'entreprise voit plus grand. Elle propose alors de nouveaux outils allant de la gestion de bases de données jusqu'au streaming. Le fameux Amazon Prime Video. C'est le client qui achète ensuite l'espace souhaité en fonction de ses besoins. Mais Amazon Web Services ne s'est pas arrêté là et la filiale s'est mise à proposer tout un tas d'outils pour son cloud à base d'intelligence artificielle. L'idée lui est venue suite à un besoin en interne. En effet, l'entreprise souhaitait améliorer la gestion de ses recommandations. Des recommandations bien connues du grand public tels que « si vous avez commandé ce produit, alors vous aimerez sûrement celui-là ». Si les algorithmes d'intelligence artificielle ont d'abord servi pour la gestion des stocks ou des recommandations, ils ont bien vite colonisé l'intégralité du groupe. Sur le site, l'intelligence artificielle repère les contrefaçons ou les fraudes de cartes bancaires. Dans les entrepôts, elle gère l'acheminement des produits vers les personnes chargées de les emballer. Et enfin, elle est présente chez nous, dans les enceintes d'Alexa, qui reconnaît et interprète la voix humaine. De nouveau, Amazon a fait de ses outils un service. De la reconnaissance vocale à l'analyse d'images, de la prédiction d'achat à la détection de fraude, la liste ne cesse de s'agrandir et chaque client peut facilement les ajouter à son panier de services. Pendant 10 ans, l'avance technologique d'Amazon Web Services lui a permis de décrocher des clients emblématiques comme GE, Netflix et même la CIA. Amazon Web Services est devenu au fur et à mesure du temps le secteur le plus rentable d'Amazon. L'année dernière, la plateforme a représenté près des 2/3, soit 63% du résultat net global du groupe, avec un chiffre d'affaires de 45,4 milliards de dollars pour un profit opérationnel de 13,5 milliards. Si Amazon est pionnier dans le cloud et règne en maître, quelques nuages viennent obscurcir l'horizon. Amazon n'échappe pas, en effet, à la concurrence des autres GAFAM, et notamment de Microsoft Azure, son plus grand concurrent. L'entreprise possède notamment le cloud de la défense du Pentagone. Alibaba, IBM et Google tentent aussi de rattraper leur retard et talonnent les deux géants. En France, OVH Cloud propose aussi ses services à des entreprises françaises bien connues comme Nexity et Michelin. Cet engouement pour le cloud public s'explique par un marché estimé à près de 200 milliards de dollars d'après le cabinet Synergy Research. Le cloud est devenu le Graal des géants du numérique. Enfin, un dernier obstacle vient se mettre en travers d'Amazon. Depuis fin 2019, le gendarme américain de la concurrence, la Federal Trade Commission, a lancé une enquête contre Amazon pour abus de position dominante sur le marché du cloud public. En 2020, c'est au tour de la Commission européenne de remettre en cause les actions du géant du commerce en ligne. Elle accuse, par exemple, l'entreprise américaine d'enfreindre les règles européennes en matière de concurrence, en tirant profit des données de détaillants indépendants qui utilisent son site de vente en ligne. La Commission soupçonne également un traitement préférentiel par Amazon des offres ou des vendeurs de sa place de marché qui ont recours à ses services de livraison et de stockage. La pression exercée par les États, ainsi que l'arrivée de nouveaux concurrents, viennent donc perturber la suprématie d'Amazon Web Services. Va-t-on assister prochainement à la fin de sa toute-puissance ?
Très bonne question, Marie, et merci beaucoup pour cette immersion dans un domaine d'activité un peu moins connu d'Amazon. Alors, peut-être pour réagir, Olivier Hertscher, est-ce que ce sont les services proposés aux entreprises ou aux particuliers qui sont les plus disruptifs, les plus influents, les plus restructurants, ou est-ce que c'est peut-être la manière dont ils floutent un peu les services entre le monde de l'entreprise et celui des particuliers, le particulier devenant un peu entrepreneur, l'entrepreneur s'incarnant dans des profils de particuliers?
Oui, c'est plutôt ce que vous avez évoqué dans la fin de votre question, c'est-à-dire que l'idée, l'idée, elle est double. Elle est à la fois de se positionner partout et d'entretenir effectivement cette espèce de zone de flou entre ce qui relève du secteur de l'entreprise ou de l'individu, de la même manière que dès leur essor, les moteurs de recherche, et notamment Google, ont essayé de flouter la zone qui séparait notre vie publique de notre vie privée. On, c'est toujours des stratégies qu'on retrouve, mais l'enjeu pour Amazon, pour Amazon et pour les autres, c'est de créer une espèce de double dépendance qui sera à la fois une dépendance attentionnelle aux contenus qui seront offerts et calculés par les algorithmes sur les différents services, que ce soit des services effectivement de vidéos ou de choses comme ça, et en même temps des dépendances qui sont aussi des dépendances techniques. C'est-à-dire que non seulement vous regarderez les séries de la plateforme Amazon, mais vous les regarderez en passant par une architecture de services qui sera apporté par le même acteur économique. Et c'est là où c'est profondément embêtant et dangereux, parce que ça remet en question un principe qui est fondamental dans l'histoire et dans l'actualité aussi de l'Internet et du Web, qui est la question de la neutralité du net. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, un fournisseur de services peut avoir la main sur les contenus d'un ensemble d'autres services. En d'autres termes, si est-ce que Amazon, par exemple, peut décider de ralentir des services de vidéo pour certains utilisateurs afin de favoriser son propre service de streaming vidéo. Et aujourd'hui, on est dans des configurations où la plupart des GAFAM, là effectivement, dans la chronique, Marie vient d'évoquer le cas d'Amazon, mais Google aujourd'hui est un câbleau opérateur. Google déploie des lignes téléphoniques, de la fibre optique. Facebook fait la même chose, alors dans des proportions différentes, mais en tout cas, là aussi, pour revenir sur les cœurs de métier qu'évoquait Jérémy au début, on voit bien que pour ces sociétés-là, l'enjeu est d'être à chaque étage, à la fois attentionnel, mais aussi technique, en termes d'infrastructure, pour accélérer notre dépendance, et surtout pour pouvoir ensuite avoir toute la marge de manœuvre nécessaire pour nous vendre un certain nombre de services ou de produits.
Alors le monde virtuel dans lequel se déploient les GAFAM, par exemple la question de la neutralité du web, on a vraiment l'impression que c'est des questions extrêmement contemporaines, nouvelles, qui sont en rupture avec l'histoire de l'économie et de l'industrie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alain Supiot, par exemple, parle même de résurgence de formes anciennes, comme si l'érosion, par exemple, du droit du travail pouvait faire ressortir, ou du commerce international, pouvait faire affleurer des strates plus anciennes et faire ressurgir des systèmes féodaux qui étaient cachés sous le système industriel. Quand l'état social s'effondre, qu'est-ce qui ressurgit en dessous?
Oui, c'est enfin, comment dire, là aussi, quand on observe effectivement l'histoire des techniques et puis l'histoire sociale sur le temps long, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de, non pas une boucle, parce qu'on n'est pas dans un jour sans fin, heureusement, mais en tout cas un aspect pendulaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on a des systèmes qui se sont construits pour répondre à des conditions de d'émancipation dans une société donnée, qui ont favorisé une certaine émancipation des travailleurs et qui immédiatement se sont retournés contre ces mêmes travailleurs à partir du moment où effectivement des intérêts économiques supérieurs sont entrés par exemple en ligne de compte. Ce que Alain Supiot montre bien aussi dans tous ses ouvrages, c'est que cette idée qu'on appelle aujourd'hui ce qu'Antoine Etrouvroy appelle la gouvernementalité algorithmique, ce n'est rien d'autre finalement qu'un travestissement contemporain d'une réalité ancienne qui arrive avec l'informatique et qui est cette idée de la gouvernance par les nombres et par la statistique, c'est-à-dire cette idée qu'un État, qu'une nation est en capacité d'organiser la vie de ses citoyens autour d'un certain nombre d'indicateurs qui sont des moyennes statistiques. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui très exactement. Alors bien sûr, avec des échelles, avec des effets et avec là aussi des infrastructures et des techniques différentes, mais qu'on retrouve dans les questions de gouvernementalité algorithmique et les questions qu'on se pose autour du fait que dans les algorithmes de recommandation, dans l'accès à un certain nombre de services de crédit, par exemple, quand tout ça est réglé par des algorithmes, quel est l'enjeu, quels sont les biais, comment on traque et comment on identifie ces biais, puis éventuellement, comment est-ce que, bien sûr, derrière, on les corrige. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a effectivement cet effet cyclique qui fait qu'on voit revenir, et c'est la même chose avec l'essor du digital labor, là, qui est très bien décrit par Antonio Casilli, où là aussi on est retourné, paradoxalement, dans une société hyper contemporaine, vers des formes de travail qui sont des formes anciennes de travail à la tâche et qui étaient les formes les plus répandues, si j'ose dire, à une époque où on sortait à peine d'une civilisation reposant sur l'esclavage pour entrer dans un autre modèle. De là à dire que tous les employés Uber sont aujourd'hui les nouveaux esclaves, il y a peut-être un pas qu'il faut franchir prudemment, mais en tout cas, les mauvaises idées sont aussi, hélas, celles qui se recyclent le mieux à l'aune des alibis techniques, oui.
Cette dématérialisation, d'une certaine manière, de leurs produits et qui leur donne cette hégémonie absolument immense aujourd'hui par rapport à d'autres industriels dans le passé qui avaient une réalité physique d'infrastructure qui les mettait vraiment en position de force, qui était vraiment indéboulonnable. Est-ce que là, il n'y a pas ce danger et cette peur perpétuelle des GAFAM que la masse critique dont vous parliez tout à l'heure de leurs consommateurs s'échappe d'un coup pour aller vers une autre structure informatique, une autre entreprise qui, elle, pourrait grossir tout aussi vite que Google, Amazon, Facebook? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur d'être un peu sur la sellette, d'une certaine manière?
Alors, si, probablement. Et en tout cas, ce qui est observable, c'est qu'ils font tout, effectivement, pour atténuer les risques. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que les principes d'interopérabilité, par exemple, ou de portabilité des données d'une plateforme à une plateforme concurrente, soit la plus impossible ou la plus complexe, en tout cas, possible, précisément parce que derrière, il y a un enjeu qui est d'abord de garder captifs ses propres utilisateurs dans son écosystème de services. Donc c'est effectivement une stratégie qu'ils mettent en place. Après, sur la dématérialisation, là aussi, on voit bien que c'est un faux ami, puisqu'il n'y a rien qui ressemble plus à un site industriel nucléaire, par exemple, qu'un data center. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on présente et qu'on habille avec là aussi un champ sémantique qui est celui du vaporeux, du léger, du cloud, de l'immatériel. En fait, ça renvoie à des réalités qui sont des réalités d'infrastructures massives, lourdes, polluantes, extrêmement consommatrices d'énergie. Et voilà, il n'y a rien de plus énergivore que ce fameux cloud dématérialisé dont on a l'impression qu'il lévite comme ça au-dessus de nos têtes, alors qu'en fait, ce sont les usines du 21e siècle.
Tout à fait. Je renvoie nos auditeurs d'ailleurs à une émission du Labo des Savoirs sur l'impact, le coût écologique d'Internet qui nous avait fait voir la matérialité très forte de cet objet. Alors pour la suite, on va peut-être voir dans une deuxième partie que c'est en partie le système de valeurs et en fait tout un discours qui est philosophico-politico-managérial développé par les GAFAM qui idéologique, qui permet de garder auprès d'eux leurs ouailles. Avant cela, nous allons nous accorder une petite pause musicale.
Ils écoutent la musique avec un téléphone. Ils parlent dans la rue avec un téléphone. Se photographie avec un téléphone. Et même il se dirige avec un téléphone. Et moi j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis. J'écoutais la musique avec mon téléphone. Je parlais dans la rue avec mon téléphone. Je me photographiais avec mon téléphone. Et je me dirigeais avec mon téléphone. Oh, mais j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis.
Dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
C'était Téléphone de Philippe Catherine. Nous sommes toujours au Labo des Savoirs avec Olivier Hersheid, maître de conférence en sciences de l'information à l'Université de Nantes. Les GAFAM ne sont pas seulement des entreprises incontournables, il s'agit d'une machine idéologique bien efficace.
But we just kind of followed what people wanted. After much consideration, I took the less safe path to follow my passion, and I'm proud of that choice.
Right, I mean, the best companies that get built are things that are trying to drive some kind of social change, even if it's just local in one place.
I didn't think I'd regret trying and failing.
I think the key is building a company which is focused on learning as quickly as possible.
As a young boy, I'd been a garage inventor.
You know, we invest in people who we think are just really talented, even if they haven't done that thing before.
When it's tough, will you give up or will you be relentless?
And go for this mission of connecting the world.
Tomorrow, in a very real sense, your life, the life you author from scratch on your own, begins.
A lot of the big challenges of the world today, they're not problems that any one group of people or even one country can solve, right? They really involve coming together and giving everyone an opportunity to participate in solving them. So I think connecting everyone is really a key thing.
In the end, we are our choices.
It seemed like the next thing that we needed to do to help people express themselves and understand more what was going on around them.
Will you follow dogma or will you be original?
Les extraits que l'on vient d'entendre sont tirés d'une interview de Mark Zuckerberg au célèbre incubateur californien, le Y Combinator. Donc la vidéo tirée de cette interview est intitulée « How to build the future ?»« Comment construire le futur ?» Vous avez aussi peut-être reconnu Jeff Bezos dans un discours déjà mentionné en début d'émission qui a pour titre « What will you be ?»« Que deviendrez-vous ?» Dans ces deux exemples, donc ces multiples extraits, on retrouve les concepts clés de mission, d'essai-erreur, de choix individuel, de produits populaires, d'efficacité, de connexion entre les gens ou encore d'originalité. Alors, Olivier Herschel, les GAFAM sont-elles l'œuf ou la poule? Est-ce que ces valeurs existaient-elles déjà dans le monde entrepreneurial d'avant?
Donc, oui, la question de la poule et de l'œuf, elle est complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, même si moi, je suis pas du tout économiste, donc je vais m'arrêter assez vite pour ne pas raconter de bêtises, mais en tout cas, ces valeurs, elles sont assez structurantes dans le champ économique, indépendamment des GAFAM et de la Silicon Valley. Après, il y a un marqueur idéologique assez fort du côté de ce qu'on appelle les libertariens. Et ce marqueur idéologique, effectivement, il traverse la plupart des entreprises dont on parle aujourd'hui à des niveaux divers. Mais en tout cas, derrière, le résultat, c'est qu'il y a un projet politique qui est revendiqué, qui est assumé et qui, en gros, on risque de caricaturer un petit peu, mais pourrait se résumer en disant que les États sont des forces subsidiaires dont on peut très bien se passer dans la mesure où on a des infrastructures techniques qui permettent de répondre aux différents problèmes d'une société de manière beaucoup plus efficiente que ne peuvent le faire les États dans leur conception moderne. Et du coup, chaque fois que ces sociétés-là viennent se positionner sur des services qui s'apparentent de près ou de loin à des services publics, il y a cette idée effectivement de faire reculer les secteurs régaliens et de prendre la main avec derrière les risques qu'on connaît. Et puis sur la question des valeurs, pour parler de choses que je maîtrise peut-être un petit peu mieux que le domaine économique, sur la question des valeurs, ce qui est très frappant, c'est que cette question, en fait, elle a émergé assez récemment. Le fait qu'on interroge les GAFAM sur la question des valeurs qu'ils véhiculent, c'est assez récent dans le champ social. Mais la première occurrence de ça, on la trouve dans un texte de Laurence Lessig dans les années, qui est publié en 2000, qui s'appelle Code is Law, et où il explique, où il écrit que la question du code informatique est d'abord une question de valeur. C'est-à-dire que si ces systèmes techniques posent ou peuvent poser problème, c'est bien parce qu'au-delà du code informatique, dans le code informatique, ce sont des systèmes de valeurs qui se transmettent. Et le travail du chercheur, du citoyen et des médias, c'est précisément d'interroger ces systèmes de valeurs et de faire en sorte que les gens qui vont les mettre en place et les implémenter au sein de ces plateformes-là soient formés soit éclairé sur ce qu'on pourrait appeler, pour utiliser un mot un petit peu suranné, sur la question des humanités, c'est-à-dire qu'en termes de droit, qu'en termes de philosophie, qu'en termes d'histoire des religions, qu'en termes de connaissances culturelles, ils aient une vision éclairée de tout ça qui leur permet de comprendre en quoi les systèmes techniques qu'ils développent peuvent impacter le champ social de manière tout à fait déterminante.
Peut-être une des caractéristiques des valeurs qu'ils portent, c'est la dimension très, alors je ne vais pas dire consensuelle, mais qui fait consensus, ou qu'on a du mal à être contre. Par exemple, vous l'avez cité, la valeur de simplicité, de rapidité, de fluidité, ce qu'on reproche beaucoup aux États, ils sont freins, eux, les salauds. Et ce sont des valeurs qui permettent de créer des bonnes expériences utilisateurs. Donc ça, c'est leur métier, de créer des interfaces. Ça, c'est des valeurs importantes. Mais ça a depuis longtemps débordé et rayonné sur le reste de la société. Et ils ont une ambition de fluidifier, de simplifier tout, pas juste leur système d'exploitation.
Oui, il y a cette idée. Alors, il y a un mot-clé qui revient assez souvent dans les discours de ces gens-là, et notamment chez Zuckerberg, qui est cette idée de déployer des systèmes qui sont, en anglais, frictionless, c'est-à-dire sans friction. Donc, effectivement, en travaillant sur cette idée d'une fluidité maximale, qui va nous placer, en tant qu'utilisateurs, dans des configurations cognitives où aucun effort ne nous est jamais demandé. Et c'est typiquement ce qu'on voit avec la mécanique, par exemple, du like ou de tous les systèmes comme ça, où on peut partager, rajouter un petit cœur, mettre une petite étoile. Ce sont des systèmes fluides parce qu'effectivement, pour les faire tourner, on n'a pas besoin de réfléchir deux heures et de s'interroger sur le sens de la vie. Le problème, c'est que cette fluidité, et là aussi, c'est une question qui est aujourd'hui très travaillée par plein de chercheurs en sciences sociales. Il y a notamment Dominique Boulier qui a sorti récemment un très bon bouquin dont le titre m'échappe là-dessus. Il ne peut pas y avoir de société s'il n'y a pas de friction, c'est-à-dire s'il n'y a pas, à un moment donné, des temps d'arrêt. Le fait de développer des interfaces, des systèmes, des infrastructures techniques où tout est fluide en permanence, fait qu'on est devant une espèce d'écoulement dans lequel on va finir par se perdre et par se noyer parce que ça nous ôte la possibilité qui est celle de prendre le temps de réfléchir aux raisons qui font qu'à un moment donné, on se trouve bien dans ce bain informationnel ou dans ce bain d'une interface qui nous choie et qui nous traite avec plein d'égards pour qu'à aucun moment on ne produise un effort intellectuel quelconque. Et donc l'enjeu, si par exemple on veut arriver à lutter efficacement contre un certain nombre de discours de haine, l'enjeu, si on veut retrouver dans les systèmes de recommandation une diversité éditoriale, l'enjeu, c'est de remettre précisément de la friction là où il n'y avait avant que de la fluidité. Mais ça, pour les plateformes et pour les gens qui sont derrière, c'est évidemment hors de question, et c'est tout l'inverse qu'ils font, même si récemment, et là aussi malheureusement, si j'ose dire, en réaction à des phénomènes de société absolument dramatiques, ou dans le contexte des élections aux États-Unis, les élections présidentielles, on a vu que les plateformes étaient capables d'intégrer ces questions-là, puisque Twitter, par exemple, a mis une fonctionnalité qui, avant de retweeter, vous demandait si vous aviez bien lu l'article, puisque Facebook, depuis quelques années, fait des expériences sur Instagram pour essayer de rendre moins visibles les j'aime, pour qu'on ne soit pas addict à ces formes de récompenses sociales. Donc on voit bien que ce sont des enjeux qu'ils ont identifiés, mais clairement, sauf contexte très particulier, un attentat, des élections qui risquent de tourner vinaigre, ce sont des systèmes qu'ils se refusent pour l'instant à déployer assez largement ou à maintenir sur la durée.
Oui, la valeur de liberté et d'horizontalité, là on voit qu'elle s'est heurtée au mur d'une quasi-révolution américaine qui était complètement portée par les réseaux sociaux. Je voulais vous interroger aussi sur la facilité, la simplicité, la fluidité à une espèce de contrepoint dans leur discours qui est l'empowerment, donc l'incapacitation, le fait d'être capable de relever de nouveaux défis. C'est un discours qui est extrêmement porté, et on a l'impression que la facilité et la fluidité, le bain informationnel dans lequel on se met, n'est pas du tout dans une dynamique justement d'incapacitation. Alors ça paraît contradictoire de porter ces deux valeurs en même temps.
Oui, alors il y a un terme il y a un néologisme qui est celui d'Alain Damasio. Il parle d'empuissantement dans ses romans pour éviter justement les capacitations et autres choses comme ça. Mais Ouais, alors il y a pour enfin le terme le plus même s'il apparaît un peu compliqué, mais le terme le plus clair que j'ai trouvé pour désigner ce que vous venez de décrire là, c'est un terme qui est porté par une philosophe italienne qui s'appelle Gloria Origi, qui parle de caconomie. Alors la caconomie, c'est quoi? C'est le goût pour des interactions de faible niveau tant que on s'accorde tacitement sur leur importance sociale. C'est-à-dire en gros, effectivement, pour que ces plateformes existent, elles ont besoin qu'on interagisse en permanence. Mais elles ont besoin d'interactions de faible niveau. Parce que si elles nous demandent d'avoir des interactions de haut niveau qui nécessitent de la réflexion, du dialogue social, du partage, etc., en permanence, elles vont nous perdre parce qu'on va effectivement trouver que ce n'est pas soit le lieu adéquat, soit que ça nous fatigue et qu'à un moment donné, on a juste envie de buller et de cliquer sur notre canapé. Donc le biais qu'elles ont trouvé, c'est d'introduire à tous les niveaux de l'interface, dans la mise en contact, dans le partage de contenu, ce niveau-là de caconomie, c'est-à-dire le fait de dire un petit like, ça me permet de signaler à des gens que je suis là, ou une petite photo de moi le soir en train de manger une pizza, ou de ma pizza plus exactement, postée sur Instagram, ça signale que j'ai une activité sociale, et en face de ça, d'autres personnes vont venir lâcher un petit cœur sur ma photo de pizza, et ce système-là suffit à ce que on ait la perception d'avoir interagi et d'avoir cette espèce d'illusion qui est à la base d'un certain nombre de nos échanges sociaux, qui est qu'on interagit pour on est sur le théâtre de nos interactions, dirait Goffman, et ça suffit à nous inscrire dans le jeu social. Et là où ces plateformes sont redoutablement efficaces, c'est qu'effectivement, elles nous astreignent avec des systèmes de lèse cognitive que sont les notifications, les rappels, les suggestions permanentes. Elles nous ramènent sans cesse à la tâche comme autant de contremaîtres cognitifs. Et du coup, ce faisant, elles nous font alimenter avec du travail gratuit leur modèle économique. Elles nous font remplir des petites captcha ou reconnaître des images dont on sait derrière que c'est ensuite utilisé pour améliorer des systèmes de reconnaissance visuelle, notamment sur des terrains de guerre. Elles nous font faire sans cesse des micro-tâches, mais qui sont toujours ambivalentes parce qu'elles nous installent aussi dans une illusion de représentation et de reconnaissance sociale.
Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Alors, si on devait trouver, imaginons que les GAFAM fassent sécession, qu'ils ne veulent plus d'État, et que dans une Californie libre, on leur laisse créer une espèce de néo-État libéral, et je ne sais pas s'il serait libertaire, mais libéral en tout cas, quelle serait leur valeur qui porterait, ce serait pas égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, ce serait peut-être efficacité, liberté, horizontalité.
Ouais, ou quelque chose plutôt du style singularité, c'est-à-dire que à chaque fois, il y avait eu moi un exemple qui m'avait, enfin que j'avais trouvé assez intéressant. C'était là aussi après un certain nombre de d'attentats, et notamment les attentats contre Charlie Hebdo au mois de janvier 2015, plein de réseaux sociaux et Facebook notamment. Avaient modifié leurs conditions générales d'utilisation, et notamment la possibilité de masquer un certain nombre d'images choquantes. Et en fait, ils avaient deux options. La première option, c'était de dire il y a un consensus social sur ce qui est choquant et ce qui ne l'est pas. Et donc, on va se baser, s'appuyer sur ce consensus social, un petit peu voilà, Lévi-Strauss, totem et tabou. Et la deuxième option, c'était de dire, en fait, chacun dispose de sa singularité propre et chacun va être choqué par des choses différentes. Et l'option qu'ils avaient choisi de mettre en place, vous pouviez régler, alors depuis ils ont enlevé ça, mais vous pouviez régler des petits curseurs pour dire, en gros, la nudité, ça me choque un peu beaucoup à la folie passionnément, les images violentes, ça me choque un peu beaucoup à la folie passionnément, la corrida, etc., etc. Et donc chacun, en fait, était enfermé dans une représentation qui est renvoyée à ses propres valeurs, à ses propres tabous, et à aucun moment on avait la possibilité de faire collectivement société. C'est-à-dire qu'on était nécessairement assimilé à des groupes qui avaient exactement les mêmes valeurs ou les mêmes tabous que nous. Or, pour qu'une société, pour qu'un collectif puisse exister et faire société, il ne faut pas simplement des règles démocratique de droit ou une division des pouvoirs, il faut aussi qu'on puisse partager des choses avec des gens qui pensent différemment de nous et qui n'ont pas précisément les mêmes valeurs que nous. L'enjeu de démocratie que posent ces plateformes, c'est d'abord celui-là. C'est-à-dire, si on s'appuie à chaque fois sur des effets de singularité qui vont être très confortables quand on les regarde, encore une fois, isolément. Moi, ça me va très bien de ne partager que des points de vue de gens qui votent plutôt à gauche, qui sont plutôt anticapitalistes, etc., etc., parce que ça me conforte dans mes propres croyances et préjugés. Mais à un moment donné, si on m'enferme là-dedans, dans l'accès à l'information, dans l'accès à la culture, dans l'ensemble des systèmes de recommandations qui fabriquent mes goûts et mes appétences culturelles, ben je vais effectivement me flétrir et m'empêcher de créer du commun avec des gens qui ont aussi des choses à m'apporter. Et donc, ouais, derrière liberté, égalité, fraternité, il y aurait peut-être surveillance, parce que c'est quand même des sociétés qui fondamentalement reposent sur ce que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de la surveillance. Donc surveillance, singularité, et puis libertarianisme, cette idée que, c'est-à-dire, c'est pas libéral, c'est pas libertaire, c'est encore autre chose. Et c'est l'idée que des algorithmes, des plateformes techniques, des infrastructures technologiques massives sont en capacité de mieux résoudre les problèmes que les États.
On a parlé rapidement de Alain Damasio qui lui a choisi de se déconnecter quasiment intégralement, de ne pas avoir de téléphone portable, de se connecter de temps en temps à Internet, mais de prendre vraiment beaucoup ses distances avec le monde numérique. Mais en préparant cette émission, on est tombé sur une application qui s'appelle La Dérive, qui est développée par le collectif Hérétique et qui tente de tout de même investir les outils numériques, mais pour porter d'autres valeurs. Jérémy, tu as réussi à les appeler ?
Tout à fait, Maxime. Nous avons demandé à Antoine Mestralet, l'un des instigateurs de ce projet, de nous en dire plus.
Oui, bah, tout à fait. Donc Dérive, c'est le premier projet qu'on a lancé lors de la création d'Hérétique il y a maintenant un an. Alors curieux, pourquoi ? En fait, donc, c'est une application qui, de prime abord, a l'air assez simple. C'est une sorte de boussole qui va vous donner votre distance et la direction vers une destination. Et en fait, l'idée étant de dire que Google Maps est extrêmement efficace et c'est probablement la meilleure solution pour vous donner le chemin le plus rapide vers une destination. Mais en fait, on est des êtres humains bien plus complexes qu'uniquement rationnels et on peut vouloir chercher des chemins qui soient différents que le chemin le plus rapide et on peut vouloir lever la tête et choisir nous-mêmes notre chemin.
Alors vous l'avez compris, l'idée est la suivante, renseigner dans l'application une destination et ne plus avoir un itinéraire mais une direction. Donc libre à vous ensuite de trouver le chemin pour atteindre cette destination. Alors pourquoi chercher à proposer cette alternative à Google Maps ?
Et donc nous ce qu'on dit c'est de la même manière, au lieu d'avoir un Google Maps qui est une énorme béquille numérique et qui va réfléchir à notre place pour nous orienter, on se dit l'intermédiaire c'est d'avoir cette boussole qui fonctionne comme elle doit fonctionner et c'est à vous derrière de faire les choix, de se dire bon bah je vais plutôt passer par telle rue parce que je ne la connais pas, je vais plutôt passer par celle-là parce que je la connais bien et je l'adore, je vais faire usage de mon jugement et pas juste me laisser guider par l'algorithme comme un petit robot.
Dérive est donc une invitation à la flânerie, à suivre un chemin qui n'est pas forcément le plus court. À la surprise aussi, puisqu'il est possible d'envoyer à un ami ou une amie, une dérive surprise. Donc la boussole indique alors une destination inconnue, la personne ne voit que la direction et la distance restante à parcourir. Alors cette technologie va-t-elle révolutionner le monde ?
En fait, la fonctionnalité de dérive surprise, ça fait 30 ans qu'on peut la créer avec le numérique. Alors peut-être que nos appareils sont meilleurs aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que ça pourrait exister, d'envoyer quelqu'un à un endroit sans lui dire l'adresse, et personne ne l'a fait. Et nous, en fait, notre conviction, c'est que les gens qui développent ces services-là, notamment bon, les GAFAM et les startups plus généralement, qui sont dans ce dogme de l'efficacité, du coup, sont passés à côté de tout un pan d'outils, par exemple, qu'on pourrait développer. Il y a des outils pour, comme je disais, développer des compétences, des émotions, des valeurs, promouvoir des droits, etc., défendre des droits, etc.
Olivier Hersheid, est-ce que vous voulez réagir ?
Oui, enfin très très brièvement, moi c'est effectivement un collectif que je ne connaissais pas, donc je découvre avec plaisir les travaux, enfin le travail et que j'irai voir. Moi ça m'évoque effectivement. Moi je suis très séduit par tous les gens qui travaillent sur la capacité de détourner des systèmes techniques de leur objectif initial, parce que je crois que la c'est toute la philosophie du hacking, mais le meilleur moyen de garder la main sur ces systèmes techniques qui nous gouvernent plus ou moins, c'est d'une part d'être en capacité de soulever le capot et de regarder à l'intérieur comment ça marche, et puis c'est aussi effectivement la capacité de les détourner éventuellement de leur stratégie initiale. Et moi j'avais beaucoup bossé il y a quelques années sur des questions de sérendipité, de flânerie, c'est-à-dire les découvertes qu'on fait un petit peu, les découvertes non préparées qu'on fait un petit peu par hasard. Et le web, ça va être le moment... moment OK boomer, mais le web du début, d'avant les grandes plateformes, jusque dans les années, on va dire 2005, était un web où l'essentiel, effectivement, des conversations, l'essentiel des rencontres se produisait de manière non pas réglée et orchestrée mathématiquement ou algorithmiquement, mais de manière tout à fait stochastique et aléatoire. On suivait un lien, on se retrouvait sur un truc qui nous paraissait intéressant, on tombait sur un vieux forum un peu moisi où on commençait à échanger avec des gens passionnants. Et cette dimension-là, de l'aléatoire, elle a effectivement essentiellement disparu aujourd'hui, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, et du coup, chaque fois qu'on a des moyens de nous ramener vers ça, vers cette dimension de la flânerie, du lazy web, à un moment donné, il y avait même ce néologisme, enfin cette expression qui avait fleuri, cette idée d'un web paresseux, mais pas paresseux dans le sens où on clique paresseusement pour lâcher des likes sur des contenus plus ou moins intéressants, paresseux dans le sens où on s'accorde un droit à la non-efficience, à la non-efficacité, à la non-interaction, qui va nous ouvrir des chemins de découverte et de réflexion différents et souvent beaucoup plus féconds et beaucoup plus intéressants. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais intéressé et séduit par ce qui était proposé.
Mais justement, dans la continuité du projet du collectif Hérétique, Olivier, on voulait vous poser une question. En fait, vous, dans votre blog, vous défendez un web libre et ouvert, notamment avec un index décentralisé des pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être nous dire aussi si ça a des chances, selon vous, d'émerger rapidement ?
Alors oui, l'idée d'un index indépendant du web, alors elle n'est pas de moi, elle est d'un chercheur qui s'appelle Dirk Lewandowski, qui a proposé un article, enfin plusieurs articles sur ce sujet-là, pour faire non pas simple, mais pour essayer d'être clair, l'idée c'est de dire au départ, le web est un espace public qui est versé intentionnellement dans le domaine public par le CERN et par son inventeur Tim Berners-Lee en 1993, et il va se déployer avec des technologies publiques et principalement sur des infrastructures aussi qui sont des infrastructures de connexion publique. Donc toute l'histoire du web, elle est rattachée à ces questions et à ces enjeux du domaine public. Les grands monopoles attentionnels qui se sont construits sur le web ont commencé par se servir de ce domaine public, ce qui était leur droit le plus absolu, et c'est même fait pour ça. Le problème, c'est que progressivement, elles ont installé des systèmes d'enclosure, c'est-à-dire que il est devenu difficile pour d'autres acteurs de s'approprier la totalité du web, soit parce qu'effectivement c'était devenu trop grand, qu'ils n'avaient plus les moyens, ils n'avaient plus les serveurs, etc., soit parce qu'il y avait des espèces d'effets de seuil où, voilà, si vous êtes un jeune moteur de recherche et que vous essayez de tester, de développer une technologie, non pas pour devenir le prochain Google, mais pour essayer d'être un rival raisonnable, par exemple, ben aujourd'hui, vous avez besoin, pour passer à l'échelle, d'infrastructures qui sont absolument, absolument colossales. Et donc, l'idée de Lewandowski et des autres collègues qui travaillent là-dessus, c'est de dire, en fait, il faut arriver à, alors non pas à nationaliser les contenus du web, c'est pas ça, mais en tout cas à faire en sorte que la privatisation de fait qui a lieu et qui est opéré par des grandes sociétés comme Google, comme Facebook, sur d'autres aspects et sur d'autres enjeux. Il faut faire reculer cette privatisation, il faut permettre à chaque nouvel entrant sur le marché, parce que c'est aussi un marché, et bien d'être en situation de développer des technologies qui pourront peut-être rivaliser effectivement avec celles de Google et casser le monopole de ces sociétés-là. Et pour faire ça, Lewandowski prend l'exemple de cet index indépendant du web, et il dit en fait... aujourd'hui, l'essentiel finalement du web, il tourne sur les serveurs de Google qui construit une immense base de données avec la mise en cache de la quasi-totalité en tout cas du web public. Et si on pouvait disposer d'un web indépendant, enfin d'un index indépendant du web, ça permettrait à n'importe quelle petite société d'avoir accès à ce qui est la matière première finalement qui permet derrière de développer des services. Donc c'est ça l'idée d'un index indépendant du web. Alors tel que je viens d'expliquer là, de manière un petit peu abrupte et sommaire, on voit bien que c'est quand même compliqué à mettre en place. Mais c'est pas impossible. Alors l'exemple que je cite souvent, c'est celui d'un consortium de bibliothèques aux États-Unis qui, quand elles se sont aperçues que Google était en train de numériser tous les ouvrages du domaine public et de les garder pour lui, ou plus exactement de garder la copie numérique première au sein d'un écosystème de services qui était uniquement celui de Google, pour derrière effectivement avoir l'idée de peut-être un jour, qui sait, de les vendre ou en tout cas de se positionner comme seul point d'accès à ces ressources. Ben, ces bibliothèques, elles se sont réunies en consortium. Elles ont créé un consortium qui s'appelle le HathiTrust et elles ont dupliqué en fait la base de données. Alors au début, elles l'ont fait de manière quasiment illégale. Elles ont piqué des copies à Google sans lui dire. Et puis elles ont développé leur propre copie numérique. Et cet ensemble de ressources numériques qui sont donc des textes et des œuvres du domaine public littéraire, elles l'ont remis à disposition de qui voulait. Et ça a permis d'éviter ce qui aurait pu devenir très vite une espèce d'effet de monopole où Google aurait été en possession de l'essentiel des ouvrages du domaine public numérisés par Google, hébergés sur les serveurs de Google, disponibles uniquement si on avait un compte et une adresse mail Google. Donc le risque, c'est ça. Et effectivement, des moyens de lutter contre ce risque-là, c'est de remettre du domaine public là où il y a des tentatives d'appropriation et de privatisation de plus en plus manifestes.
Conclusion, je pense qu'on pourra se donner rendez-vous sur MSN pour poursuivre cette discussion. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, nous vous recommandons bien sûr de vous tourner vers les livres d'Olivier Hershey, en vente évidemment sur Amazon, on a vérifié, ou de mettre dans votre navigateur préféré l'adresse affordance.info pour des articles de blog passionnants et parfois musclés sur le numérique. N'hésitez pas également à aller voir le travail passionnant du collectif Hérétique.
À la présentation aujourd'hui, c'était Maxime Labatte et moi-même Jérémy Frexas. Merci à Marie-Hilary pour sa très chouette chronique sur Amazon Web Service. Merci aussi à Dounia 16 pour la technique et la réalisation. Merci à notre invité Olivier Hershade. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, on se retrouve sur le www.labodasavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée.
Your hands. He got nothing.